Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Guillaume Nodin.
Bonjour ou rebonjour. Deuxième partie de cette édition spéciale d'appel sur l'actualité à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. On retourne immédiatement à Brazzaville pour entendre Alphonse. Bonjour Alphonse.
Bonjour Guillaume.
Merci d'être avec nous. Parmi les grands événements de l'histoire congolaise récente, il y en a eu de particulièrement douloureux, de durs, de marquants, et ce sont les guerres civiles des années 90.
Ah oui, il faut reconnaître, hein, les marxistes disent souvent que ce sont les hommes qui font l'histoire. Et en ce qui concerne l'histoire politique de notre pays, je ne pense pas que les hommes politiques ont brillé par la qualité de la gouvernance, parce que qu'est-ce qu'ils ont servi au peuple? Opposition comme pouvoir, c'était une série de guerres. Et je pense que cette histoire est à écrire vraiment en lettres noires tout au long de nos 60 ans. On a connu la guerre de 93, elle était peut-être considérée comme une petite guerre, mais en 97, c'était une véritable guerre civile sur fond de revendications politiques teintées, n'est-ce pas, à une certaine un certain repli identitaire. On a même entendu dire que c'était une guerre civile entre le Nord et le Sud, c'était peut-être pas ça, mais ça en avait l'air. Et puis il y a eu le prolongement de cette guerre en 98 avec le poule qui s'est mis, n'est-ce pas, en éruption avec le pasteur Ntoumi. D'ailleurs, le prolongement s'est poursuivi en 2007, notamment, avec toujours le même Ntoumi. Donc, ce n'est pas vraiment de bons exemples. Les stigmates sont encore là, les cicatrices sont encore béantes, même si, à l'apparence, les gens donnent l'impression qu'il y a une réconciliation. Oui, au niveau des masses, les gens peuvent se fréquenter, à quelques exceptions près, puisqu'on entend parfois, ici et là, les gens dire « Vous êtes de tel parti, vous ne devez pas épouser peut-être une fille de telle autre région du pays. » Ça existe encore. Un tribalisme qui est entretenu en sous-main par des hommes politiques qui savent agiter le chasse-mouche du tribalisme lorsqu'il s'agit de faire des revendications politiques. Et alors, je vous le dis, Guillaume, c'est quelque chose qui est là parce qu'on sent qu'il y a de l'hypocrisie de part et d'autre au niveau de la classe politique. On parle de réconciliation, mais pour moi, il n'y a pas une véritable réconciliation. La preuve, il y a encore des Congolais qui vivent à l'étranger, peut-être pas du fait du pouvoir, mais eux-mêmes, soit certains disent « je ne reviens pas au pouvoir tant que Sassou est là », soit il y en a qui sont des exilés tout à fait volontaires, pour des raisons que nous connaissons, parce qu'il n'y a pas une véritable réconciliation nationale. Et cela peut faire peur lorsqu'on sait qu'il n'y a pas une véritable réconciliation. Qu'en sera-t-il dans les années à venir? Il y a plus d'hypocrisie dans un pays où les hommes vivent de la politique. La politique chez nous, c'est un grand fonds de commerce. Merci. Qui apporte un grand jackpot.
Merci Alphonse de votre intervention. Rémi Bazenguissa, puisque vous êtes sociologue, la société congolaise, elle est fracturée en particulier par cette période de guerre civile, de violence politique armée?
Oui, alors, ce qui est assez curieux à noter, et c'est que au moment où le Congo, donc début des années 90, bascule dans le monopartisme, c'est la fin du parti unique, et c'est des revendications pour la démocratie, comme on l'appelait à l'époque, donc tout est plus ouvert, et il y a des manifestations contre l'idée « plus jamais ça, plus jamais de violence, plus jamais de coup d'État », et des élections se font qui sont claires et nettes, la victoire de Lissouba était incontestable, mais ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que ce moment de grande clairvoyance va accoucher de quelque chose de monstrueux qui est ces fameuses guerres, qu'on peut dire civiles ou autre chose. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est pas seulement de pointer des individus, mais c'est tout un système. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que même des civils vont s'engager dans ces combats. Des civils, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de formation militaire. Et c'est ce phénomène qui me questionne. Je crois qu'il faudrait que, dans la réflexion sur l'histoire du Congo, qu'on essaie de comprendre qu'il y a eu un moment là, que tout le système s'est transformé, que avant, pendant le parti unique, la violence politique dans sa dimension meurtrière concernait plutôt l'élite politique. Et après les années 90, cette violence politique va concerner pratiquement tout Congolais. Et tout Congolais va en subir les conséquences. Et pour les Congolais, pour réfléchir, pour penser ces situations, ils vont réutiliser les catégories ethniques, mais en partant de l'idée, pour eux, qui est que les ethnies presque existeraient avant. Mmh. Alors que la question qui se pose, c'est que c'est l'ordre politique qui ethnicise les conflits. Et si on prend seulement 93 et 97, les entités ethnico-politiques qui sont mobilisées, elles sont complètement différentes. En 93, les entités politiques, c'était Nibolek et Tchèque. Nibolek et Tchèque, c'était des constructions conjoncturelles de cette époque.
Ce que vous voulez dire, Rémi Bazenguissa, c'est qu'il y a eu une ethnicisation des conflits politiques, un petit peu d'opportunité, si je comprends bien.
Mais, c'est d'opportunité, non, mais de politisation, en fait, qui est très liée au contexte politique. Ça veut dire que dans la dimension politique, l'ethnie ne vient pas avant.
Oui, elle vient en complément du conflit, en appui.
Dans le conflit.
Voilà. Hein. Brice Makosso, vous qui êtes sur place, est-ce que vous ressentez cette méfiance dont parlait Alphonse, notre auditeur ?
Méfiance, peut-être que c'est un peu trop dit. Hein. Il faut dire que les Congolais, ils vivent quand même en bonne symbiose, mais ceci dit, il faudrait pas exclure évidemment les blessures des guerres que nous avons eues. Il faudrait pas exclure non plus que le processus de réconciliation il n'a même pas été entamé. On n'a jamais eu un processus de réconciliation dans ce pays. Il n'y a jamais eu d'écoute des victimes. On n'a pas soigné les traumatismes et on n'a pas réparé évidemment les blessures que nous avions eues par rapport à ces différents conflits. Et donc, je crois que tout est à refaire. Et il n'y a pas que les conflits de 93. On peut prendre quelques événements, d'autres événements, tels que le 4 mars, il y a des victimes qui n'ont pas encore de réparation jusqu'à ce jour. Tout ça, ça fait des blessures. Nous avons eu récemment, lors du référendum constitutionnel, des morts qui n'ont pas été reconnus par la République. Donc, tout ça, ça fait des blessures et nous pensons qu'il revient à l'élite politique d'engager un véritable processus de réconciliation pour essayer de soigner ces traumatismes. Alors, moi, l'expression guerre civile me gêne un tout petit peu, et là, je suis d'accord avec M. Bazenguissa qui parle de l'instrumentalisation des solidarités ethniques, parce qu'à la base, c'est quand même des conflits politiques. Mmh. C'est pas des civils qui se sont battus, que ce soit en 93 ou en 97. Pendant ces événements, nous avons utilisé des hélicoptères de combat, des orgues de Staline, des obus de tout calibre. Je ne suis pas convaincu que des civils savent manipuler tous ces engins. C'est quand même des groupes militaires. Nous nous souvenons, n'oublions pas que l'armée était politisé pendant tout le temps du monopartisme, et même si dans les années 90 on a dépolitisé l'armée, mais cette dépolitisation n'était pas complète. Donc on a continué à avoir dans le pays, où nous continuons encore à avoir des groupes militaires ou des militaires politisés qui se sont battus et évidemment ont instrumentalisé les ethnies pour entraîner les ethnies dans un conflit politique, afin qu'on parle de conflit civil. Mais ce conflit, il n'a jamais été civil. Mmh. C'est des militaires, des groupes de militaires politisés qui se sont affrontés. Et on a vu d'ailleurs, pendant cette période, des civils fuir de tous les côtés.
Oui.
Parfois, ils vont dans la zone nord, parfois ils vont dans la zone sud. Et là encore, c'est des termes que nous avions créés pendant ces différents conflits.
Merci pour ces explications très très complètes. On va peut-être essayer d'avancer un petit peu, si vous le voulez bien, Brice Makosso. Je m'excuse de vous couper, parce qu'on va parler un peu d'économie et de social à présent. Ce sont des thèmes qui reviennent beaucoup dans les questions de nos auditeurs. On est avec David, qui est congolais, qui nous appelle de Béthune, dans le nord de la France. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Pour vous, la situation, surtout en matière d'infrastructure, c'est beaucoup de santé, d'éducation, c'est beaucoup dégradé.
Oui, mais Guillaume, la déception situation de notre pays, c'est que c'est vrai, nous avons hérité d'une indépendance, enfin ce que j'appelle une pseudo-indépendance, une indépendance factice, mais 60 ans après, nous n'avons plus d'excuses à donner. 60 ans après, nous n'avons pas continué à accuser la France. Il s'agit, voyez-vous, tout ce qu'on vient de dire, l'histoire du pays est marquée par des événements tragiques. C'est-à-dire que nous avons passé du temps toujours des guerres civiles et c'est pas encore fini. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim. Pendant ce temps, nous manquons de tout. Le pays manque d'hôpitaux, le pays manque de routes, le pays manque d'eau potable, le pays manque d'électricité. Le pays manque des choses basiques. Mmh. Malheureusement, si nous prenons... Mais il y a des responsables de cet échec. Les secteurs collectifs. Si nous prenons, nous regardons de près, les Congolais aussi ont besoin de cette vérité, c'est que 60 ans passés, 35 ans, nous avons un système, le même qui jusqu'à présent est au pouvoir. Et nous avons manqué l'occasion certainement pendant la conférence nationale de 91 où on avait soldé, semble-t-il, on avait soldé le passif. Parce qu'il ne faut pas juste rappeler...
Oui, David, concluez, s'il vous plaît, parce qu'on a encore quelques auditeurs derrière vous, donc je ne peux pas vous laisser monopoliser la parole. Concluez.
D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un échec. L'économie, alors, parce que c'est un pays qui, à 80-90%, il repose sur l'exploitation des ressources pétrolières. Aujourd'hui, avec la chute justement du baril de pétrole, le pays est en faillite. Nous n'avons pas diversifié notre économie, nous n'avons pas développé le secteur de tourisme. Il s'avère que nous avons une biodiversité qui est intacte, qui n'est pas exploitée, qu'on pouvait bien développer
d'accord.
le tourisme.
David, je vous coupe pour de bon cette fois-ci. Excusez-moi, je vous coupe pour de bon parce qu'il faut quand même que je puisse donner la parole à d'autres auditeurs et à nos invités. Rémi Bazenguissa, les difficultés en matière d'éducation, de santé dont parle David, elles sont vécues comment ?
Alors là, je suis mal placé.
Vous êtes mal placé puisque vous êtes en France, évidemment. Voilà. Alors je me tourne vers Brice Macosso. Ça va dans quel sens, le bon ou le mauvais, sur ces difficultés logistiques?
Alors les difficultés logistiques, il faudrait les relativiser un tout petit peu. Je crois que pendant la période de boom pétrolier, de fast que nous avons eu, il y a eu un petit effort pour la construction des infrastructures, mais nous n'avions pas fait les bonnes choses économiques. Donc, par exemple, au lieu de construire 12 hôpitaux généraux dans tous les départements, on aurait mieux fait de construire le centre de santé intégré pour rapprocher la population des systèmes sanitaires. Au lieu de faire des aéroports dans tous les départements, on aurait mieux fait, par exemple, de construire des routes secondaires pour favoriser la circulation des marchandises et des personnes. Au lieu de privilégier les investisseurs chinois, on aurait mieux fait de donner des marchés à des entrepreneurs locaux. Ça aurait pu développer un tissu des PME et PMI au niveau local. Ceci dit, le système de santé et le système éducatif se sont en même temps dégradés. Certainement à cause du niveau de vie qui n'a pas été réévalué, disons le niveau de vie des salaires des fonctionnaires. La corruption est arrivée dans tous les secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et donc là, il faut dire qu'on a eu un grand recul en termes d'accès aux soins de santé et d'accès à l'éducation.
Alors nous sommes maintenant avec Béranger à Brazzaville. Bonjour Béranger.
Bonjour Guillaume, je suis plutôt à Pointe-Noire.
Oui, à Pointe-Noire, pardon, excusez-moi. Oui, le Congo est un pays riche avec des ressources en pétrole, en bois, et globalement, il connaît depuis plusieurs années un essor macroéconomique. Mais les conditions, on vient de l'entendre, ne sont pas réunies, et selon vous également, pour que les ressources se transforment réellement en développement.
Oui, c'est bien ça, le constat il est amer. Hein. Vous savez, moi je décris le Congo comme un père de famille qui a 60 ans, mais qui ne peut pas loger ses enfants, qui ne peut pas donner le strict minimum, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Le constat fait est tel que lorsque le président tousse à 16h, heure de Brazzaville, il prend le prochain vol Air France pour aller se traiter en France ou en Espagne. Ça veut dire qu'il ne croit même pas au système de santé de son propre pays. Le modèle économique que nous avons au Congo a consisté à exploiter la manne pétrolière pour soi-disant développer les infrastructures du pays, avec un fameux programme qu'on appelait municipalisation accélérée, qui au contraire a été un vrai moyen mis en place par le pouvoir pour détourner les deniers publics. Le Congo se repose sur l'exploitation de son pétrole, qui, selon certains experts, va épuiser en 2034. Et que sera le Congo après 2034 ? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures ? Tous les autres ont parlé des guerres avant, c'est vrai, mais le vrai problème du Congo, c'est le manque de patriotisme. Tous les dirigeants politiques ont des comptes à l'étranger, ils ont rassuré leur famille, si je ne suis plus au pouvoir, vous avez des passeports français ou anglais ou américains, vous allez exiler. Et le Congolais lambda, qu'est-ce qu'il devient ? Le problème d'éducation, il est fondé. À l'époque, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, nous recevions beaucoup d'étrangers à Brazzaville, à l'université Maringouabi. Mais aujourd'hui, nous, on envoie même nos Congolais au Bénin, les étudiants congolais au Botswana pour aller étudier. C'est un échec total. Oui. Pour moi, on ne parlerait pas d'indépendance au Congo. Parce qu'un pays indépendant doit quand même donner le minimum. Vous savez, quand moi j'ai faim à la maison, je ne pense pas que je suis indépendant. Je ne peux pas avoir de l'eau potable chez moi, je n'ai pas l'électricité chez moi. Mais de quelle indépendance on parle aussi ?
Rémi Mazengisa. Rémi Mazengisa, les mots employés par Béranger sont très forts. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je ne peux que souscrire, puisque bon, quand je vais au Congo, je me rends compte de ce qu'il dit. Et que pour moi, une des questions qui se posent en tant que chercheur, et j'ai pas trouvé la réponse, c'est de comprendre comment vivent les Congolais, de quoi ils vivent. Hein, parce que, effectivement, pour beaucoup, des salaires ne sont pas payés, pour des retraités... Les pensions ne sont pas versées, mais il faut quand même tenir le mois. Hein, mais comment ils font pour vivre ? Donc ça, pour moi, c'est des vraies questions. Mais il me semble que ces problèmes-là, par exemple, des universitaires ou des étudiants congolais devraient vraiment se pencher sur ces types de questions, parce que ça éclairerait vraiment beaucoup. Parce que bon, même si on est en train de déplorer, malgré le fait qu'on déplore cette situation, hein, toujours est-il que les gens vivent. Mais comment ils font pour vivre ? Comment est-il possible de vivre sans son salaire pendant des mois ? Comment il est possible de vivre sans sa pension, surtout quand on est retraité, pendant des mois ? Il me semble que ça, c'est des vraies questions et qui méritent des réponses sociologiques, économiques, peut-être historiques. Oui. Mais jusque-là, on n'a pas des réponses. Donc on n'est que dans la plainte, dans le constat. Donc il me semble que c'est important.
Christian, on vous rejoint à Brazzaville. Bonjour. Christian, vous êtes là ?
Bonjour.
Oui.
Oui, je suis là, oui.
Oui, il nous reste très peu de temps, mais bon, je voudrais quand même vous laisser l'occasion de vous exprimer. Vous êtes quand même moins sévère, vous, sur l'évolution du pays ces 20 dernières années ?
Ben, moi, ce que je constate et ce que je retiens de manière principale, c'est, je répète encore, la stabilité dont nous bénéficions en République du Congo. Cette stabilité est propice à une attraction des investissements extérieurs. Nous le voyons tous les jours. Hier encore, j'ai appris que la mastodonte Huawei a décidé d'installer au République du Congo un siège énorme en vue de développer ses activités en Afrique. Lorsque je constate le flux migratoire de nombre de pays africains vers le mien, je constate bien que comparativement, nous avons des personnes sur le continent qui estiment que le Congo demeure encore un Eldorado. Et tout ceci, pour ma part, ne peut être dû, n'est-ce pas, qu'aux éléments objectifs qui permettent d'établir, indépendamment de quelques critiques, que ce pays est un pays à institutions stables. Nous avons bénéficié d'une période de stabilité à l'époque du monopartisme, comme on le dit. Il y a eu un petit intermède de 5 années durant lequel il y a eu des troubles. Mais je pense qu'au sortir, n'est-ce pas, des guerres qualifiées de civiles ou de militaro-civiles, comme il a été dit, j'ai écouté l'émission, depuis les années 2000, nous sommes à une vingtaine d'années de stabilité à apprécier. Et tout ceci ne peut être dû qu'à, je dirais, le leadership, n'est-ce pas, de nos dirigeants qui trouve les moyens, indépendamment des circonstances qui frappent notre pays, de